à tous et surtout merci de nous rester fidèles à l'écoute de la tribune de presse de ce vendredi 22 juillet 2016 que vous présente Berry Franklin Louchaka. Avec moi dans ce studio, je m'en vais saluer John Omombo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendant basé à Kinshasa. Innocent Kaboukala, bonsoir.
Bonsoir, je.
Vous êtes aussi journaliste indépendant basé à Kinshasa. Et au téléphone, Romain Kambala, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à KHRT, une télévision privée émettant à Tchikapa dans la province du Kasaï. Et je dis aussi bonsoir à Alain Goy qui assure la mise en onde de ce numéro. L'économie et la politique sont au cœur des trois quarts d'heure d'analyse de l'actualité ce soir. D'abord en politique, Joseph Kabila a appelé lundi 18 juillet la population congolaise à appuyer le processus électoral en participant massivement au processus d'enrôlement qui débute le 31 juillet 2016. Depuis Kananga où il séjourne, le chef de l'État congolais a recommandé particulièrement à la jeunesse du Kasaï central et donc de la RDC de se faire enrôler afin d'avoir la possibilité d'élire leurs futurs représentants. Quelle analyse faire de cet appel? Et puis en économie, le ministre de l'économie, Modeste Bahati, maintient la mesure de suspension de l'importation du ciment gris, des barres fer et du sucre pour 3 mois dans la partie ouest du pays, à savoir Kinshasa, le Congo central et l'ex-Bandundu. Comment analyser cette nouvelle mesure? Quelques autres faits d'actualité que nous commenterons rapidement, c'est entre autres les représentants du Rassemblement, une des plateformes de l'opposition politique congolaise qui a été reçue au ministère français des Affaires étrangères. Mais avant tout, voici la revue de presse que nous présente Kéline Kouté, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. Le frais jour du chef de l'État Kananga n'a pas laissé indifférent les journaux de Kinshasa. Cette actualité a alimenté leur manchette à l'instar de l'Avenir qui titre Joseph Kabila lance la première centrale solaire en RDC. Cette centrale solaire aménagée dans la partie sud du site qui abrite le cabinet du gouverneur du Kasaï central vise à améliorer la desserte en électricité de la ville de Kananga qui en était privée depuis plus de 40 ans, fait remarquer le journal. Une solution provisoire fait d'emblée remarquer le président Joseph Kabila dans son speech, prenant l'engagement de faire achever les travaux du barrage de Katende, déjà effectué à 65%. Le chef de l'État a aussi coupé le ruban symbolique de la société Transcac Transport du Kasaï central et a pris place à bord d'un bus jusqu'à l'entrée principale de la gare de la SNCC pour revenir au point de départ, rapporte le quotidien. Forum des As spécifique, le chef de l'État a également abordé dans son adresse à la population locale la question politique avec deux thèmes précis, la décentralisation et le processus électoral. J'aimerais bien demander à la population d'appuyer ce processus parce que, in fine, l'objectif est le développement de la province de façon particulière, du pays de façon générale, a déclaré Joseph Kabila, cité par le journal. Changeons les chapitres pour parler l'économie, la décision du ministre de l'économie de suspendre l'importation du ciment gris, des barres de fer et du sucre sur l'ensemble du pays suscite encore des réactions au sein de la population. Sur radiocapi.net, on peut lire le ministre de l'économie nationale, Modeste Bahati, maintient la mesure de suspension de l'importation du ciment gris, des barres de fer et du sucre pour 3 mois dans la partie ouest du pays, à savoir Kinshasa, Congo central et l'ex-Bandundu. Il a annoncé cette décision dans son arrêté signé mardi 19 juillet à Kinshasa, précisant que ce produit peut être importé dans d'autres parties de la RDC. La décision du ministre de l'économie a été désapprouvée par la Fédération des entreprises du Congo, la société civile et les ménages en chantier. Les membres du patronat congolais réunis lundi dernier à Kinshasa ont qualifié cette décision d'inadéquate et improductive. Autre sujet abordé par les tabloïdes, ce sont ces deux grands meetings à la fin du mois à Lens-le-Phare. La majorité à Tata Raphaël, l'opposition se renseignement. C'est le décor d'un match politique pour prouver qui de l'opposition et de la majorité mobilise le plus dans la capitale, écrit le quotidien, qui espère que les forces de l'ordre se limiteront à la mission d'encadrer les manifestations publiques sans parti pris. Kinshasa connaîtra sans doute une fin de mois très agitée avec la tenue excessive des meetings projetés tant du côté de la majorité que de l'opposition, prévient la référence plus.
Merci Kéline Kouté. Dans l'actualité de la semaine, vous le savez, une délégation de l'opposition congolaise a été reçue lundi dernier au Quai d'Orsay, siège du ministère français des Affaires étrangères. Le représentant du rassemblement issu du conclave de Bruxelles Bruxelles sont venus plaider leur cause à la direction Afrique du ministère 2 semaines seulement avant le grand meeting de l'opposition prévu à Kinshasa le 31 juillet prochain. La délégation a été présidée par Étienne Tshisekedi, opposant historique et président du l'UDPS. L'opposition est d'ailleurs sortie confiante et affirme même avoir été entendue. John, vous avez suivi cette actualité, comment vous l'avez analysée?
Oui, mais c'est une démarche tout à fait légitime d'un regroupement politique, un regroupement qui a été constitué encore à Géval, même si ce regroupement, du point de vue de la loi, n'existe pas ici en République démocratique du Congo. Rassemblement, c'est un vide ici au Congo.
Même un rassemblement de l'opposition?
Je vous dis que c'est un vide, ils n'ont ni statut, ni un quelconque document qui peut faire d'eux une structure agréée du point de vue de la loi. Et donc, s'il y a par exemple une manifestation, c'est peut-être l'UDPS ou un autre parti membre justement de ce rassemblement qui peut écrire, n'est-ce pas, à l'autorité compétente pour l'informer. Ça, c'est une précision de taille. Mais par rapport à la démarche, j'estime que c'est une démarche légitime. Mais peut-être par rapport à l'accompagnement communicationnel que bénéficient justement toutes ces démarches-là. Lorsqu'on est reçu à la direction Afrique, ce n'est pas le ministre qui vous a reçu. Écoutez, vous pouvez être reçu même par des ONG,
mais
par des sénateurs.
Ils ont été entendus quand même.
Être entendu, il n'y a aucun indicateur qui montre qu'ils ont été entendus. Bon, nous sommes tout à fait d'accord, je soutiens la démarche, elle est légitime, mais il ne faut pas qu'on nous donne l'impression comme si la décision du Congo, c'est une décision prise de l'extérieur et non du Congo.
Merci. Alors, Innocent, vous avez aussi suivi cette actualité. Quelle lecture vous faites finalement de ce énième rencontre de l'opposition avec les chancelleries occidentales?
Oui, ici d'abord il faut préciser une chose, hein, c'est que un rassemblement, il n'a pas forcément besoin qu'il soit reconnu par une loi. Ici, il s'agit plutôt d'un esprit, et cet esprit voudrait bien rencontrer des personnalités politiques, plutôt de, on va dire, des partenaires politiques pour pouvoir mesurer en fait leurs actions qu'ils comptent mener dans le pays par rapport
et arriver à un objectif bien donné.
C'est bien déterminé. Donc ça n'a rien à voir avec exister quelque part pour parler d'un vide comme l'a estimé mon confrère. Unième rencontre, oui, c'est normal, on peut en multiplier, peut-être ce n'est pas la dernière. C'est une des rencontres parmi tant d'autres et donc je ne vois aucun problème et je considère que c'est tout à fait normal pour un regroupement politique qui a ses ambitions et qui les a affichées. D'ailleurs, il faut noter que c'est une première fois que l'opposition se retrouve à ce stade-là. Vous savez, par le passé, combien il y a eu de critiques pour dire que l'opposition ne peut jamais se réunir. Et donc, moi, personnellement, de l'analyse en tant que journaliste, je salue cet aspect des choses. Je crois que, bon, moi, je les encourage dans cette démarche.
D'accord. Romain, les opposants ont réitéré leurs conditions pour aller au dialogue, à savoir la mise en œuvre officielle de la médiation élargie, le respect de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies et le départ du président Joseph Kabila en décembre prochain. Ils affirment même être sortis satisfaits de leur rencontre avec leurs interlocuteurs. Qu'en pensez-vous?
Être pessimiste ou optimiste, c'est une position, mais je pense que les conditions telles qu'elles ont été posées par les opposants ou l'opposition valent la peine et nécessitent que l'autre camp puisse les analyser et voir dans quelle mesure faire une modération pour voir qu'est-ce qu'on retient et qu'est-ce qu'on ne retient pas. Je sais que tout celui qui vient à une discussion amène une position pour lui-même, mais on n'est pas forcément obligé d'accepter le point de vue de l'autre. Ce qui est essentiel est que les deux parties, que ce soit ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition en dehors du pouvoir, se mettent ensemble pour trouver un point de vue commun pour la résolution des problèmes qui minent notre pays. La divergence en soi, pour moi, n'amène à aucune solution. Il faut que les gens se retrouvent d'abord en pré-assise et pour voir quel est l'agenda. Cet agenda-là est à établir ensemble. Il ne faut pas qu'un camp amène son agenda pour dire voilà le dialogue auquel nous allons participer sera taillé sur tel ou tel autre élément. Là, ça sera de l'imposition et ce n'est pas bien.
Alors, puisque vous avez la parole, qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'actualité chez vous à Tshikapa?
Deux éléments dominent l'actualité à Tshikapa. D'abord, c'est la poursuite des travaux de bitumage de la voirie urbaine. Alors qu'il est, on est déjà à la phase d'asphaltage, même si ce sont les quelques 5 ou 6 kilomètres qui sont concernés à l'intérieur de la ville. Ces travaux sont réalisés par la société chinoise Sino Hydro. Autre actualité, c'est juste la pose de la première pierre. C'était lundi dernier par le ministre de l'enseignement primaire et secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, M. Makerbank, qui a posé la pierre de la construction de la maison de la mutuelle de santé, ce qui va profiter bien entendu au secteur de l'éducation. Voilà.
Merci beaucoup. Et cette semaine à Kinshasa, plusieurs cas de braquage ont été signalés ces dernières semaines dans les taxis communément appelés Ketch. La plupart des clients victimes de ces braquages ont décrit le même scénario et dans certains cas, les victimes affirment avoir été questionnées pendant plusieurs minutes par des personnes qui se présentent comme étant des membres des services de sécurité. Et les braqueurs sont généralement armés et menacent leurs victimes de les tuer si elles ne font pas ce qu'ils leur demandent. John, quelle lecture faites-vous de ces cas d'insécurité à Kinshasa?
C'est un problème très sérieux qu'il faut, qui appelle à des mesures efficaces. Je voudrais rappeler que moi personnellement, j'ai des personnes qui me sont proches et qui ont été victimes de cette situation. Il y a des mois passés, c'est d'ailleurs maintenant que la situation a pris de l'ampleur, mais la situation date d'il y a près de 4 à 5 mois déjà passés. J'ai même des confrères de la RTGA, même une femme qui a connu cette situation, lui a tout ravi, pas loin de Radio Cap ici, vers la gare centrale. Mmh. Et tout se fait vers 17-18 heures.
Donc, pratiquement aux heures de pointe.
Aux heures de pointe. Et apparemment, ils arrivent aussi à identifier les gens qui ont quelque chose dans le sac. Ils se font identifier comme des services de sécurité, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Je voudrais ici encourager la mesure de la police pour justement encadrer cette situation et garantir la libre circulation des personnes et des biens. Par exemple, les véhicules de transport en commun qui sont des vitres teintées, je pense qu'ils doivent mettre en application cette mesure, d'ailleurs qui entre en vigueur, je crois si je ne me trompe pas, ce vendredi à Kinshasa. Et c'est très important, même si j'ai appris qu'il y a certaines résistances des personnes qui estiment que voilà, il y a des véhicules dont les vitres sont fumées depuis l'usine. Alors si on leur demande de refaire encore la même situation, ils vont dépenser beaucoup d'argent. Je pense que c'est une raison qui ne tient pas debout. Tout le monde devait se couvrir, tout le monde devait avoir un véhicule fumé. Qu'est-ce que vous cachez, même ceux qui sont des autorités? Il y a certains cas d'exception qu'on peut tolérer, mais il y a des personnes qui, tu vois quelqu'un, il va voir sa copine, et puis il est là en train de faire entendre des gironfards, il faut lui laisser le passage, et finalement vous le voyez s'arrêter dans un coin. Non, il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer, il faut qu'on sente l'égalité de tous devant des mesures, devant la loi. Voilà ce que nous nous proposons.
Alors, Innocent, très rapidement avant d'entrer dans notre premier thème, il y a certains analystes qui lient ces cas d'insécurité qui règnent à Kinshasa à la fin du mandat du chef de l'État. Qu'en pensez-vous?
Oui, il y a beaucoup de similitudes, hein, c'est le faut dire. Mais je crois que c'est peut-être dans cette démarche-là que je m'inscris aussi. Généralement, ici ça rappelle d'ailleurs le cas de Ibou qu'on a connu à l'époque de feu le maréchal Mobutu. Et c'était justement au moment où il y avait ces hésitations entre est-ce qu'elle doit partir, ne doit-elle pas partir, elle doit rester au pouvoir et tout ça. Et ça, généralement, ça se fait. Et surtout que ces gens se présentent comme ceux appartenant à des corps de sécurité, des services et tout ça. Et donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Moi, je ne sais pas. C'est vrai, quand ils portent des armes, on peut penser à des bandits armés. C'est possible. Mais en même temps, lorsqu'ils se prennent sous le label de service de sécurité, puisqu'ils opèrent presque de la même manière, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de similitudes et beaucoup d'éléments qui nous échappent. Mais si John, par exemple, dit qu'ils n'ont rien à voir, parce qu'il lui affirme qu'ils n'ont rien à voir avec les services de sécurité.
Et c'est ce qu'a dit le général Kanyama dans le dialogue entre Congolais.
Moi, je ne sais pas. Mais de toutes les façons, ça comporte quand même quelques éléments de soupçons. On ne sait pas exactement. Mais de façon générale, pendant cette période, il y a quand même pour parier qu'il y a tous ces états de résistance parce qu'il y a les événements qui arrivent, les échéances électorales, tout ce qui s'est dit autour de cela. Parce que d'ailleurs, la plupart des questions qui sont posées, et même certains ont même déclaré que on vérifiait dans le téléphone si vous avez des messages relatifs à des photos, par exemple, des politiques, de certaines personnalités de la place, et si vous avez des éléments qui donnent lieu à quelque chose d'acquaintance avec des opposants, vous êtes tout de suite pris et puis vous allez dans une destination inconnue. Donc je crois que il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qu'on peut se poser à ce sujet.
Merci beaucoup et tout de suite nous entrons dans notre premier thème de la soirée qui concerne la tournée du chef de l'État à Kananga. Le chef de l'État congolais a appelé la population à appuyer le processus de décentralisation pour le développement de la RDC. Il a invité en même temps la jeunesse congolaise à adhérer au processus électoral en se faisant enrôler massivement pour le renouvellement de la classe politique. Suivons cet extrait de l'adresse du chef de l'État à la population choisie par André Kambala Mujanaï.
Aujourd'hui, on a la province qu'on appelle le Kasaï. Et suite à la décentralisation. J'aimerais bien demander à la population du Kasaï central de continuer à appuyer ce processus. Parce qu'il finit, l'objectif principal, c'est le développement de la province et le développement du pays d'une façon générale. En même temps, la fin de ce mois, soit le 31 juillet, on va commencer le processus d'enrôlement. J'aimerais bien appeler la population du Kasaï central et à travers vous, la population de notre grand pays, de participer massivement à ce processus. Surtout pour les jeunes gens qui nous ont accompagnés de la réponse jusqu'ici. Je sais que 90% d'entre vous, vous n'avez pas une carte d'électeur. Et par conséquent, vous ne pouvez pas participer aux élections. Or, l'objectif de ce processus électoral, en ce qui me concerne, c'est un moyen clairement de faire en sorte que nous puissions, dans ce pays, renouveler la classe politique. Avant la fin de cette année, on va commencer avec le processus d'enrôlement dans la province.
Signalons par ailleurs que le président de la République a inauguré deux projets de développement de Kananga. Il s'agit de la centrale solaire Megatron qui pourra, selon les responsables, desservir Kananga 24 heures sur 24 en courant pour l'éclairage public et domestique. Joseph Kabila a aussi inauguré la nouvelle société de transport en commun dénommée Transcac. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, sachez que Berry Franklin Luchaka qui vous présente cette tribune de presse reçoit dans ce studio deux journalistes indépendants. Il s'agit de John Omombo et Innocent Kabukala, tous basés ici à Kinshasa, et Romain Kambala, journaliste à KHRT, une télévision privée qui émet depuis Tchikapa dans la province du Kasaï. Une première question à vous tous, messieurs. Je commence par vous, John. Comment vous avez analysé les propos du chef d'État que vous avez entendus?
Qu'est-ce que nous pouvons dire d'autre parce qu'il a été si clair dans le message? C'est le message d'un homme d'État. Ce n'est pas le message d'un homme politique. Ça, c'est le message d'un démocrate. Parce que on ne peut pas avoir des élections sans un corps électoral. Il a expliqué, même quand il parle de la jeunesse, c'est le débat ici à Kinshasa. Il a expliqué, il dit, mais beaucoup d'entre vous n'ont pas les cartes d'électeur. Même si on appelle les gens aujourd'hui, allons aux élections. Qu'est-ce qu'on va faire de cette jeunesse-là? Vous voyez ici, Berry, à Kinshasa, vous allez installer un bureau de vote, par exemple, à côté de l'ISTA ici, pendant qu'il y a tous ces jeunes gens qui sont majeurs à l'âge de voter. Ils n'ont pas de carte d'électeur, ils ont leur candidat de leur choix, et vous leur dites non, vous n'allez pas accéder au bureau de vote parce que vous n'avez pas de carte d'électeur. Vous voyez ce que ça fait? Au fait, le fichier électoral, c'est ce qui garantit la crédibilité d'une élection. Avoir des élections apaisées, avoir des élections crédibles, transparentes, c'est d'abord le fichier électoral. Je crois que les autres acteurs pourront le relayer.
D'accord. Alors, Innocent, comment vous avez analysé les propos du chef de l'État? John parle d'un démocrate, d'un homme d'État qui a le souci de voir la jeunesse, pourquoi pas la RDC, aller vers un bon renouvellement de la classe politique.
C'est là qu'on gage John, non?
Mais en ce qui me concerne, je vois les choses autrement. Je crois que le débat aujourd'hui, ce n'est pas celui d'appeler les gens à s'enrôler. Le débat aujourd'hui, c'est comment on a fait pour que aujourd'hui on se retrouve en train d'appeler les gens à s'enrôler alors qu'il ne reste plus que quelques mois et dans une organisation d'élections incertaine par rapport au délai constitutionnel. Donc moi je crois pas que ça soit vraiment un élément qui me ferait moins plaisir en tant qu'analyste, journaliste, sur quoi je crois pas que ça soit vraiment le moment et ça soit le discours approprié. Parce que ce qu'il fait aujourd'hui, il aurait pu faire tout au long de son deuxième mandat, dès que c'est ce mandat a commencé, pour pouvoir sensibiliser les gens, notamment ceux qui ont la charge d'organiser les élections, le gouvernement qui doit donner les moyens, et lui-même qui fait partie de l'exécutif, donc il devait s'appliquer sur tout ça pour que aujourd'hui, le discours qu'il a de se prononcer ait plus de sens, c'était prendre d'abord ces mesures-là bien avant. Mais il n'a pas fait ça avant. Mais aujourd'hui, il le fait. Mais moi, je ne crois pas que ça soit vraiment le débat.
Donc,
pour moi, le plus important, c'est on ne peut plus parler d'inviter les jeunes et tout ça, mais qu'est-ce que nous pouvons faire dans le peu de temps qui nous reste pour respecter le délai constitutionnel?
Tout
c'est pour cela que le débat serait resté sur le dialogue dont on vante par tous, mais dans lequel il faudra mettre des éléments propices par rapport aux deux contraintes, le respect de la Constitution et le délai constitutionnel.
D'accord.
Je crois que c'est là que le président de la République devait plutôt focaliser plus son attention, et à ce moment-là, ça nous permettrait de savoir ce qui va arriver. Parce que vous savez, quand vous parlez des jeunes, mais les jeunes, bon, c'est l'enthousiasme, et puis surtout quand on est à l'intérieur du pays, vous savez, on ne voit pas toujours les chefs de l'État. Quand ils arrivent, il y a de l'engouement par rapport, il y a une curiosité, il y a des gens qui veulent voir, qui veulent entendre, mais est-ce qu'ils sont convaincus de cela?
D'accord.
Vous avez parlé, bon, peut-être que je vais y revenir.
On y revient en tout cas. Romain, vous, comment vous avez analysé les propos du chef de l'État?
Oui, merci. Les propos du chef de l'État, bah, c'est le propos d'un président d'une république comme la nôtre. Moi, mon analyse, c'est comme l'a dit le confrère, le temps qui passe et le peu de temps qui nous reste, les discours ne devraient pas être autour de l'enrôlement. Parce que les dirigeants, le président lui-même, tel qu'il est là, et toutes les institutions, avaient tout le temps d'organiser le processus électoral tout en ayant en idée le respect de la Constitution et du délai constitutionnel. Nous clamons haut et fort, partout où nous sommes et où nous passons, le Congo est un pays de droit. Et quel est le droit que nous respectons si jamais nous ne savons pas respecter notre propre Constitution? Cette Constitution, nous avons dit que c'est nous qui l'avons votée. Et nous devons le respecter. Apparemment, il n'y a pas un respect des Constitutions. Parce que, avoir le temps qui nous reste, nous sommes au mois de juillet, fin juillet déjà, le mandat c'est d'ici décembre prochain. Je me demande par rapport au temps qui reste, qu'est-ce qui doit être fait. Donc, le faux discours devrait être fixer le Congolais du Kassai central sur l'avenir politique du pays. Mais là, on n'en parle pas. On parle seulement des processus électoraux. Processus électoral, oui, mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. C'est à quoi on s'attend. Ce n'est pas pour le moment les élections, parce que le temps qui nous reste, et c'est que la CENI elle-même dit par rapport à la durée électorale, ça frise vraiment plus de choses.
D'accord.
Alors je me dis personnellement que ce discours-là ne devait pas être celui-là.
D'accord. Voilà. John, le discours ne devrait pas être celui-là. C'est l'analyse de Romain et d'Innocent. Et vous soutenez que c'est un discours d'un homme d'État, d'un vrai démocrate. Est-ce que c'est pratiquement un discours qui rassure quant à l'aboutissement finalement de ce processus électoral?
Je voudrais préciser les choses. Vous savez, dans ce pays, quand vous parlez du président Kabila, en utilisant certains adjectifs, certains adverbes, on a tendance à penser que vous tombez dans le culte de la personnalité. Je parle de l'institution président de la République. Et quand je dis démocrate, quand quelqu'un soutient un processus électoral, il appelle les gens à se faire enrôler, je ne vois pas une autre démocratie
mais
qui n'est pas
d'exécution. Mais ce que dit Innocent
Romain. Non, écoutez, c'est des points de vue que je respecte. Ils savent, nous savons tous que le 29 décembre, arrêtons de penser, de dire les choses comme les politiques qui savent la vérité, mais ils veulent traîner les gens dans un flou comme ça, parce qu'il faut appeler les gens, non, le 29 décembre, tout ça, c'est l'apocalypse.
Décembre, d'ailleurs.
Le 19 décembre, c'est l'apocalypse. Il y aura un jour, il y aura une nuit. On sait très bien que ce n'est pas seulement le point de vue du président Kabila, c'est un point de vue qui est soutenu par tous les techniciens. Je vais citer ici, par exemple, ceux qui sont venus faire l'audit du fichier électoral, l'OIF. Il y a AIFES, qui est une structure américaine. Il y a d'autres structures qui ont fait l'audit avec l'opposition, la majorité, qui avait des délégations là-bas, et qui ont trouvé que le fichier était corrompu.
Mais est-ce que c'était le moment, est-ce que maintenant c'est le moment justement de pouvoir appeler la population à aller à l'enrôlement?
Non, mais est-ce qu'il y a un moment où on ne peut pas appeler les gens à ne pas aller à l'enrôlement? C'est ça aussi le problème, soyons logiques. Nous disons des choses, même le dialogue, nous soutenons le dialogue, mais vous voyez comment les gens donnent des points de vue. Vous dites non, écoutez, c'est un dialogue dans le... C'est pas moi, comme on dit, c'est comme si un dialogue convoqué selon l'esprit de la résolution, la fameuse
22,
vous l'en parlez. Mais est-ce qu'il y a un dialogue qui peut se tenir sans être convoqué par une institution locale? Vous avez vu le secrétaire général de l'ONU qui était de passage ici, qui a reçu presque toutes les parties. Et les gens ont donné l'impression comme si Ban Ki-moon allait convoquer un dialogue ici. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Parce qu'il est respectueux des principes internationaux. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai transmis les préoccupations des uns et des autres au président de la République. Il ne voit pas l'individu, il voit
l'institution.
Et donc, pour ce qui concerne les élections aujourd'hui, nous savons tous que nous ne pouvons pas aller aux élections avec ce fichier. Ça, c'est connu de tout le monde. Maintenant, quelle est la solution? C'est là qu'on ne propose pas. La solution, c'est que nous disons que les forces politiques et sociales, parce qu'il y a une tension politique aujourd'hui, il y a une sorte de crise politique, nous pouvons les dire sur
le plan. Pour paraphraser, le professeur Tshibangu Kalala a proposé la révision partielle du fichier électoral.
Bah écoutez, c'est aussi un point de vue, mais qui peut être débattu dans un cadre bien institutionnalisé. Vous savez que lorsque on parle du respect de la Constitution, le droit constitutionnel congolais, au-delà de ce qui est écrit, prévoit justement, lorsque vous interrogez le droit constitutionnel congolais, vous verrez que l'histoire de notre pays prévoit des mécanismes extra-institutionnels pour réguler la vie de l'État et pour réglementer même le conflit entre les institutions et même entre les hommes. Et donc, il y a toujours des solutions. Et cette solution, c'est quoi? Ce sont les forces politiques et sociales qui peuvent se retrouver autour d'un dialogue.
Et là, vous parlez implicitement du glissement.
Je parle du dialogue, je ne parle pas du glissement. Évitons, vous savez, même nous, en journalisme, on nous demande de prendre distance par rapport aux adjectifs et aux adverbes. Je ne veux pas tomber dans le piège des politiciens. Nous disons qu'il faut un dialogue. Dans le dialogue, Berry, il y a la démonopolisation de la vérité. Personne ne peut prétendre avoir le monopole absolu de la vérité. Il y a l'égalité entre les partenaires. Et donc, il peut y avoir une issue pacifique à ces problèmes. Parce que toutes les parties, chaque partie a son point de vue. Et donc, c'est autour d'un cadre qu'ils vont trouver la solution. Arrêtons d'appeler l'apocalypse. Il n'y aura pas apocalypse dans ce pays. Je crois qu'on en a vécu plusieurs fois. Arrêtons un discours qui fait peur. Comme pour dire, j'ai entendu même tout à l'heure, on dit l'insécurité à Kinshasa. Ça est lié à la fin du mandat, c'est faux, ce sont des actes de sabotage, on connaît comment ça se passe, nous suivons l'histoire de notre pays, donc il n'y a rien à voir avec la fin du mandat, il s'agit d'une situation d'insécurité, l'insécurité on la vit partout, même en France,
d'accord.
Et la police est en train de prendre des mesures pour maîtriser la situation.
Je vous redonne la parole, Innocent, comment vous réagissez aux propos de John?
Oui, quand on parle de la vérité, encore qu'il faut savoir quel est le contenu de cette vérité-là. Parce que quand vous dites la vérité, il n'y a personne qui aurait le monopole de la vérité lorsqu'on va parler du dialogue, mais encore qu'il faut savoir. Parce que ici, la question du dialogue ne vient pas par hasard.
Mm-hmm.
S'il y a eu une volonté du dialogue, j'ai entendu, c'est son droit le plus légitime, mais quand j'ai fait l'analyse des faits, je crois qu'il a quelque part raison. Lorsque M. Tshisekedi, prenant la parole, je crois, dans une des activités récemment à son retour du Quai d'Orsay, il disait que c'était une initiative qu'il a prise à la suite de ce que lui, il le voyait comme analyste politique. Qu'est-ce qu'il voyait? Il a constaté que notre pays était en train de partir tout droit dans les murs et qu'il fallait arrêter cette situation-là. Parce que là, quand je reviens ici, dans le cadre de notre pays, la République démocratique du Congo a un gouvernement. Le gouvernement, autant qu'il se préoccupe du vécu des concitoyens, de ce que les citoyens ont besoin, mais aussi de l'État. Cet état d'esprit, l'État, cette personne morale, s'est préoccupé de son devenir. Qu'est-ce que nous devenons, nous, demain? Parce que nous sommes là en tant que gouvernement, nous sommes issus des élections, notre mandat part de tel
moment
à tel autre
moment.
Jour.
Mm-hmm.
Et après nous, qu'est-ce qui vient?
Donc pour vous,
c'est ce gouvernement qui a besoin, qui doit préparer cela. Mais à partir du moment que ce gouvernement n'a pas fait ça, mais justement, alors donc, ça devient une inquiétude, et donc des analystes, des personnes qui estiment qu'ils ont aussi de l'amour pour ce pays, se préoccupent de cela et proposent des solutions. Parmi les solutions, il y avait l'initiative d'aller vers un dialogue. Mais pour cela, il fallait trouver des partenaires qui marcheraient dans cette vision-là. C'est pour cela qu'il y a eu tous ces contacts au niveau des chancelleries pour qu'on en arrive finalement à des résolutions, notamment d'abord l'accord cadre d'Addis Abeba qui est en fait le point de départ, et puis des autres résolutions qui sont arrivées jusqu'à la toute dernière, celle de 22-77.
Donc pour vous,
c'est... Voilà mm-hmm. ce qui est vrai.
Mm-hmm.
Et, alors, et quand on vient là, on vient justement pour résoudre l'ensemble de tous ces problèmes. Par conséquent, en local, l'initiative ne devait pas être prise à ce niveau. S'il faut suivre la logique des choses, c'est que le gouvernement, n'ayant pas satisfait à certains besoins, notamment celui de l'après ce gouvernement, on ne peut plus comprendre que ce gouvernement rappelle les gens à venir dialoguer et que ce gouvernement puisse analyser, puisse apprécier les résolutions qui viendront de là. Donc, à ce moment-là, le gouvernement est déjà incriminé, devient un accusé, et par conséquent, ça fait partie d'un des problèmes. D'où, il faut faire recours à une institution, à une organisation neutre qui mettrait les deux parties ensemble de manière à ce que nous puissions baliser l'avenir. Voilà, voilà ce qui est vrai.
D'accord.
Donc, la vérité n'a rien à voir avec une initiative qui est prise, parce que c'est comme si on occultait toutes les erreurs qu'on a commises. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi nous récusons ces discours? C'est parce que c'est par rapport à ça. Le discours, nous ne disons pas que le président Kabila ne devait pas le faire. Il avait le temps de le faire, mobiliser ses concitoyens à aller à s'enrôler et tout cela, mais après qu'il ait préparé le terrain, et le terrain aurait pu être préparé bien avant, et non pas à cet instant. Et c'est donc parce que là, nous sommes vraiment préoccupés à autre chose. Qu'est-ce que nous devenons dans les deux mois et demi, ou moins de trois mois?
D'accord. Je vous redonne la parole. Alors, Romain, selon le président de la République, l'objectif du processus électoral en cours est le renouvellement de la classe politique. N'est-ce pas là un discours d'apaisement en réponse aux intentions que lui prêtent les opposants?
Oui, bon, c'est vrai... Apaisement, oui, parce que à travers ça, on va renouveler la classe politique, comme le président l'a dit. Mais le gros problème qui se pose, c'est un problème de volonté de ce renouvellement de la classe politique. Comme l'a dit le confrère précédemment, le moment n'est pas indiqué. Nous parlons en termes de temps, le temps matériel qui nous reste sur lequel pour renouveler cette classe politique. La classe politique est renouvelée par un cycle électoral. On va passer à deux élections et on les renouvelle. Et pour ça, nous avons un calendrier, nous avons une constitution qui a fixé des choses. C'est vrai que on pense au renouvellement de la classe politique, mais est-ce qu'on tient compte du timing? J'ai suivi le confrère qui a parlé précédemment dire que le moment, est-ce qu'il y a un moment pour le processus électoral? Non, il ne faut pas qu'on raisonne de cette façon-là. Je respecte bien son opinion, mais il ne faut pas que nous raisonnions de cette façon-là. Il y a un temps pour un processus électoral. Parce que moi, je me demande, même dans la cuisine, vous voulez offrir un repas aux invités à 12h10 et à 12h55, vous mettez les ingrédients dans la casserole. Quel est le type de repas que vous allez offrir? Voilà la question.
D'accord.
Alors, on avait tout le temps. Là, je me répète, on avait tout le temps. Ces cycles, ce processus électoral... pour enrôler tous les jeunes gens, afin de renouveler la classe politique. On avait 2015, on avait 2014, on avait 2013. On pouvait travailler calmement en ayant l'idée qu'en 2016, vers sa fin, nous irons vers les élections.
D'accord.
Et aujourd'hui, à 7 heures, au mois de juillet, je me répète, nous sommes encore à la phase de discours. Les choses n'ont pas encore commencé, parce que partout je vois, on est en train de passer des concours pour recruter les formateurs et ceci et cela. Le mois va passer, nous serons au mois d'août, je ne sais pas ce cycle va commencer quand, et ainsi de suite, on sera à la fin de l'année, qu'est-ce qui sera fait, le délai sera respecté, la
constitution
elle-même sera respectée.
Alors, très
et le dialogue, et les dialogues lui-même, sur lesquels on veut se pencher pour baliser le chemin, faire atterrir les choses en douceur.
D'accord.
C'est depuis le début de l'année qu'on parle de dialogue.
Voilà.
Je sais pas, ça va se tenir dans quel mois? Point d'interrogation.
Okay.
Vous voyez que les choses s'étirent toujours en longueur et nous sommes toujours en train d'estimer. Jusque-là, rien n'est prêt, rien n'est fait. On estime toujours et entre-temps, les minutes, les heures, le jour et les mois sont en train de passer et bientôt nous serons à la fin de l'année et rien ne sera fait.
Les minutes, les heures, les secondes sont en train de passer. Nous allons arriver dans notre deuxième thème de la soirée, mais une petite question. Le chef de l'État parle du renouvellement de la classe politique. Est-ce que, selon vous, il parle aussi de son avenir politique? En deux secondes, est-ce que c'est un apaisement par rapport à son avenir politique?
Bon, en fait, par rapport à son avenir politique, c'est là où... C'est un peu compliqué.
D'accord.
Moi, je ne pense pas qu'il ait parlé de ça parce que ce sont des choses, d'autres démocraties le font le plus rapidement possible. On connaît la position de qui et qui, mais
merci.
Chez lui, c'est le multiple le plus gratuit. Hein.
Voilà. Alors, John, très rapidement, est-ce que Joseph Kabila a aussi parlé de son avenir politique lorsqu'il parle du renouvellement de la classe politique? Très rapidement, nous allons entrer dans notre deuxième thème.
Oui, très rapidement, c'est quand même curieux qu'un confrère dise à son confrère journaliste qu'il ne faut pas qu'on raisonne de cette façon. Je ne sais pas quel raisonnement il veut m'imposer. Je respecte son point de vue. Je l'invite aussi à un minimum de courtoisie dans le langage. Il s'agit d'un débat entre journalistes. Le président de la République a parlé de son avenir.
Très
il
n'y
a pas il n'y a pas une autre formule pour lui de quitter, par exemple, son mandat sans les élections. Il en a parlé à Lubumbashi, à Kalemie, je veux dire, par rapport à cette invitation récurrente d'une partie de la population qui veut Wumela, qu'il demeure au pouvoir. Il a dit qu'il faut qu'il y ait des élections dans ce pays, qu'il faut qu'il y ait alternance.
Voilà.
C'est clair.
Innocent, très rapidement.
Moi, il m'a rappelé très rapidement. Il m'a rappelé une espèce de réquisitoire en son temps lorsqu'il parlait de qu'il n'avait toujours pas 15 personnes autour de lui pour pouvoir mieux gérer les choses. Enfin, c'est à cela que j'ai pensé tout de suite lorsqu'il a parlé du renouvellement de la classe politique. Parce qu'en fait, quand il dit classe politique, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait plus de jeunes, qu'il y ait plus de vieux? Qu'est-ce que ça signifie?
D'accord.
Mais sinon, j'ai pensé à cela. Et voilà ce que je peux dire pour l'instant.
Merci beaucoup. Nous entrons votre deuxième thème de la soirée qui concerne le dossier Simon. Le ministre de l'économie nationale, Modeste Bahati, a maintenu la mesure de suspension de l'importation du ciment gris, des barres de fer et du sucre pour 3 mois dans la partie ouest du pays, à savoir Kinshasa, le Congo central et l'ex-Bandundu. Il a annoncé cette décision dans son arrêté signé mardi 19 juillet à Kinshasa, précisant que ce produit peut être importé dans d'autres parties de la RDC. Cette nouvelle mesure rectificative a tout de même accordé une dérogation aux importations en cours à condition qu'elles soient dûment signalées au ministère de l'économie. Les précisions avec vous, Daniel Tambinzoni du service économie de Radio Capi.
La première décision du ministre de l'économie, celle du 8 juillet, a suscité de vives réactions dans quasiment toutes les provinces du pays. D'un côté, la Fédération des entreprises du Congo et de l'autre, la société civile et les ménages en chantier. Ce qui a plus dérangé, c'est la spéculation que cette décision du ministre a provoquée sur le prix du ciment gris. À Kinshasa, par exemple, et depuis le samedi dernier, le sac de 50 kilos se vend à 15 000 francs congolais contre 9 810 000 francs avant cette décision. À Matadi, le prix a carrément triplé, passant de 5 000 francs congolais à 15 000 francs. 15 000 francs, c'est aussi le prix du sac de ciment vendu à Lubumbashi contre 7 500 francs avant cette mesure. À Goma et à Lubumbashi, nous avons également enregistré des plaintes par rapport au prix du sucre. La FEC a réuni ses membres lundi à son siège de Kinshasa et a qualifié cette décision d'inadéquate et d'improductive. Les sections FEC de l'Ituri, du Grand Katanga, bref, de toute la partie est du pays ont demandé au ministre de l'économie de revoir sa décision qui ne cadrait pas avec la réalité de leur milieu.
Et pour être complet dans ce dossier, sachez que les ciments importés de l'Angola qui étaient bloqués au niveau des postes frontaliers du Congo central sont autorisés à entrer dans la province. Décision prise par le gouverneur du Congo central qui a argumenté que c'est pour décongestionner les postes frontaliers tels que celui de Lufu où des fortes tensions ont été signalées depuis que la mesure gouvernementale interdisant l'entrée du ciment gris en RDC a pris effet pendant 3 mois. Jacques Mbadou est au micro de Guy Roger Niapala.
Tous les véhicules qui sont ici, qui ont déjà payé les droits, doivent être libérés tout de suite. Parce qu'ils ont déjà tout fait. Il n'y a pas de raison de les bloquer. Les autres importateurs qui n'ont pas encore commencé les formalités doivent remplir les formalités conformément aux textes légaux, en payant aussi la taxe provinciale que la DGDA va collecter pour le compte de la province. Ça ne va pas s'arrêter ici, puisqu'il faut aussi décongestionner de l'autre côté. Mais je l'ai dit, même ces véhicules qui sont là-bas peuvent passer, payer les droits des douanes et puis de telle manière que la situation soit apaisée en attendant qu'on puisse prendre les mesures qui viendront plus tard. Mais pour le moment, nous sommes venus apporter la paix. Mais on apporte la paix sans pour autant venir dire, voilà, faites ce que vous voulez, allez-y. Non, payez à l'État ce qui est dû à l'État. Parce que nous ne sommes pas prêts à détruire encore, si nous, ni les deux nouvelles sociétés qui vont être inaugurées d'ici là.
John Omombo, comment vous avez analysé la décision ou la nouvelle décision du ministre de l'économie?
Je crois que l'analyse se trouve dans les propos du gouverneur. Il dit « Je suis venu apporter la paix ». C'est que la mesure a créé un problème. C'est une décision impopulaire, une décision sélective, une décision inappropriée dans le contexte sociopolitique actuel. Vous avez vu, il semble que c'est pour booster l'industrie locale. Je me pose la question, en 3 mois de suspension de l'importation du ciment de l'extérieur, comment on peut arriver à booster l'industrie locale en 3 mois? Cette industrie locale qui se précipite à hausser, augmenter le prix du ciment sans être capable d'absorber la demande à l'intérieur. Une mesure qui a été rectifiée. Comment un ministre peut-il prendre une mesure, quelques temps après, il va rectifier. Quelle est cette mesure-là?
D'accord.
C'est un problème de responsabilité. Il faut consulter justement toutes les parties prenantes, c'est important. Et vous avez suivi la réaction de la FEC, qui est tous ces gens qui sont membres du patronat. Ils ont désavoué cette mesure. Une mesure qui ne s'applique que pour les trois zones, Kinshasa, Bandunuba, Congo. Et puis, ça, pour l'Est, ça reste
c'est
comme
allégé.
Ça. Je pense que c'est injuste. J'invite le ministre à revoir cette décision parce que c'est une décision qui entre en contradiction avec la politique générale du gouvernement qui favorise aujourd'hui, on en a vu, un boom immobilier. Comment les gens vont-ils construire? Comment on aura des routes sans ciment? Il faut qu'il y ait une compétition sur le marché pour que le ciment baisse.
D'accord.
Dans le Bas-Congo, ça a connu une augmentation de 3... On a
triplé, en fait.
Alors, c'est plus grave, ça.
D'accord. Innocent, est-ce qu'on partageait la même analyse que John?
Oui, très bien. Mais alors, le plus important pour moi, c'est que je l'ai dit déjà la semaine dernière. Moi, je n'ai pas beaucoup de connaissances en économie. Mais quand ces gens-là, ils font des démonstrations, mais à la fin, bon, je reste un peu bêté. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils disent? Alors, le plus important, c'est est-ce que lorsqu'on répartit le temps dans les 3 mois, est-ce qu'on a eu le temps aussi de donner les chiffres? Parce qu'en économie, c'est les chiffres qui parlent. Est-ce qu'il y a combien en stock qui couvrirait la période de 3 mois pour quel besoin? Je crois que il n'y a pas de réponse. Alors ça, puisque le ministre ne l'a pas fait, alors moi je crois que comme le confrère, donc la persistance du ministre cacherait quelque chose dont seul lui a le secret. Il sait pourquoi il persiste dans cette position-là. Parce que tout le monde.
Et vous l'invitez aussi à revenir.
Je crois que c'est plus sage qu'il revienne à la décision. Et ici, il y a d'ailleurs, le chef du gouvernement, il est lui-même économiste. On le sait, l'intelligence est vantée, on ne peut plus rien dire à ce sujet. Alors, mais donc, je crois que le Premier ministre devrait intervenir pour donner un peu plus d'éclairage, parce que peut-être que le ministre, bon, il est l'ancien de la société civile, est-ce que il y a quelque chose qui échappe, mais je ne sais pas, mais on fait quand même confiance. Je crois qu'avec tout ce qu'il a comme conseiller, il peut quand même arriver en tenant compte des revendications des uns et des autres, et il pourra revenir sur cette mesure.
D'accord. Alors, Romain, comment vous avez analysé finalement ce dossier de l'importation du ciment? Très rapidement, parce que vous allez aussi conclure.
Bon, la situation de ciment, barre de fer, sucre et autres qui frappent la zone ouest de la République démocratique du Congo, mesure prise par le ministre, cette mesure n'est pas la bienvenue. Moi, je me dis intérieurement que le ministre devait d'abord commencer par exposer les mobiles royaux pour lesquels ou qui l'ont amené à prendre pareille décision. Et en plus de ça, pourquoi avoir choisi seulement la partie ouest de la République? Parce que le bien en provenance de l'extérieur, au prénom de l'Angola et ailleurs, ne sont pas seulement importés dans ces provinces. Les autres provinces, comme ici au Qatar, l'importation se fait. Mais pourquoi cette mesure est sélective? Les mobiles, là, nous ne les connaissons pas. Et puis, quand il parle de 3 mois... Dans 3 mois, qu'est-ce qui sera fait quand on connaît la production qui est de Silou, de Sichaba, de Sina, ainsi de suite, qui ont fait la fierté autrefois de la République? Pourquoi ne pas se référer à cette analyse-là avant de prendre cette décision?
D'accord.
Et pourquoi même nous avons de cimenteries dans le pays? Comment est-ce que nous sommes arrivés à nous focaliser sur cette importation et sont devenues nos industries internes?
En conclusion maintenant.
Oui, en conclusion, c'est une mesure, permettez-moi, qui nécessite d'être élevée. Il n'a pas sa place. Une mesure annulée parce que elle est d'abord pour moi suicidaire pour ces provinces, parce qu'elle prive à ces provinces pour différents biens pour lesquels ils sont en train de renflouer la caisse par les frais qu'ils payent et aussi approvisionner la population pour les différents travaux.
Merci beaucoup, ce sera votre conclusion. John, votre conclusion.
La conclusion, c'est que si le ministre veut vraiment voir comment sa mesure est impopulaire, si c'est pour booster l'industrie locale, j'invite le ministre aussi à interdire l'importation de tous les produits surgelés. Qu'il interdise également l'importation du maïs, par exemple, dans l'axe Katanga et les deux Kassai. Il verra comment ça va se passer. Parce que nous sommes incapables de produire à l'intérieur, qu'on permette d'abord cela, parce que la population veut vivre. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que nous devons continuer à être riches et vous restez toujours pauvres sans construire.
Merci.
Il n'y aura pas d'apocalypse dans ce pays le 19 décembre. Nous invitons les forces politiques et sociales à se réunir, à trouver une solution pacifique pour le pays.
Merci beaucoup. Innocent, un mot en guise de conclusion.
Oui, en guise de conclusion, je reviens sur ce que j'ai dit à propos du dialogue. Je pense que comme par le passé, c'est toujours la majorité au pouvoir qui peut déterminer la suite du temps avec donc ce dialogue, parce que la majorité me pose beaucoup de problèmes.
Merci beaucoup. Et c'est à la fin de la tribune de presse de ce vendredi 22 juillet 2016. Je dis merci à Kéline Kouté qui m'a aidé à préparer cette émission, Julien Nyamouini qui a supervisé, Alain Goïté à la technique. Merci de nous faire vos remarques et suggestions à dec@radiocapi.net. Restez fidèles au programme de Radio Capi. Juste après, les programmes continuent. Bon week-end chez vous.